Oa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Vendredi 16 octobre 2015, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Anastasie Tudiech et Anne Albertson en direct de Washington. Tout de suite les titres, Anne.
La paix au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme ont conjointement annoncé avoir fait la paix.
Le nord du Nigeria à nouveau frappé par des attaques terroristes.
Au Cameroun, le chef de l'État se félicite de l'appui militaire américain dans la lutte contre Boko Haram.
En Centrafrique, le processus électoral est en panne.
Le monde aujourd'hui, c'est aussi le sport et la Minute Éco, mais d'abord le journal.
L'ex-rébellion du nord du Mali et ses rivaux de groupes armés pro-gouvernementaux qui se sont violemment affrontés en août ont annoncé jeudi soir avoir scellé la paix après plusieurs jours de pourparlers. Les discussions entre la coordination des mouvements de l'Azawad, ex-rébellion à dominante Touareg, et la plateforme, coalition de groupes pro-gouvernementaux, ont duré 3 semaines à Anéfis, au sud-ouest de Kidal. Hier, la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, saluait ces rencontres, les qualifiant d'étapes qualitatives dans le processus de paix intermalien. D'après des sources au sein des deux camps, les pourparlers d'Anéfis ont regroupé quelques centaines de personnes, membres de la société civile, notables et associations de jeunes, en présence des chefs militaires des deux camps au grand complet.
Au Nigeria, des dizaines de personnes ont été tuées hier soir dans une mosquée à Maïdougouri, dans le nord-est du pays, berceau de Boko Haram, fondé au début des années 2000. Deux kamikazes déguisés en fidèles se sont fait exploser dans la mosquée vers 18h30 heure locale, 17h30 temps universel, alors que les fidèles faisaient leur prière du soir. Le premier kamikaze aurait déclenché ses explosifs en entrant dans la mosquée. Le second se serait fait exploser peu après, une fois que de nombreuses personnes sont accourues pour prêter secours aux victimes. Le double attentat n'a pas été revendiqué pour le moment, mais Boko Haram est suspecté d'avoir une nouvelle fois frappé. Un témoin a indiqué avoir compté au moins 42 cadavres dans la mosquée à l'issue des explosions. La police évoque un bilan de 14 morts.
Au Cameroun, le président Paul Biya a salué jeudi l'engagement militaire américain dans le nord du pays. L'objectif de cette intervention est d'aider les autorités camerounaises à lutter contre les islamistes nigériens de Boko Haram. Les précisions sur cette opération d'Ilidiko.
Dans une déclaration officielle, le président Biya a expliqué que dans le cadre de la mobilisation globale contre le terrorisme international et notamment de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, les gouvernements américains et camerounais ont convenu du déploiement d'un détachement de personnel de l'armée américaine chargé de conduire des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Le déploiement des forces américaines a commencé. Elles seront basées à Garoua, chef-lieu de la région Nord. 90 militaires sont sur place depuis lundi. Et mercredi, Barack Obama a annoncé que la contribution s'élèverait à 300 militaires. L'annonce de l'intervention américaine a également été saluée par le Nigeria et qualifiée d'évolution bienvenue dans la lutte contre l'insurrection. Le Cameroun et ses États limitrophes, le Tchad, le Niger et le Nigeria, forment une coalition contre les insurgés qui sont à l'origine de plusieurs attentats. Ce dimanche, un double attentat suicide perpétré par 2 femmes kamikazes a frappé l'extrême nord du Cameroun, faisant au moins 9 morts.
Ajoutons qu'il s'agissait des 14e et 15e attentats suicides dans l'extrême nord du Cameroun depuis juillet. Plus de 100 personnes ont perdu la vie dans ces attaques lancées par Boko Haram.
En Centrafrique, le processus électoral devant mettre fin à la transition semble en panne. Mais le gouvernement se veut rassurant. Pascaline Magalé a recueilli les explications du ministre de la Sécurité et porte-parole du gouvernement, Dominique Saïd Panguinji.
L'autorité nationale des élections travaille sur un nouveau chronogramme. 2 propositions sont soumises aujourd'hui au gouvernement et en train d'être discutées. Il s'agit donc d'une proposition technique qui tient compte de la durée de la transition, mais qui présente beaucoup d'inconvénients, en ce sens que les délais légaux prévus par le code électoral, ces délais ne seront pas respectés, et donc la substance même du cadre légal est vidée, et par rapport à cela, nous pensons que cette proposition technique ne peut tenir la route. Il y a une seconde proposition, une proposition politique cette fois-ci, qui a l'avantage de respecter tous les délais légaux, où il n'y a plus de pression sur le cadre légal, mais qui va certainement nous pousser vers un glissement sur le mois de janvier. Mais le premier tour, le deuxième tour, je pense, se feront au mois de décembre ou légèrement après. Mais dans tous les cas, ces élections vont avoir lieu avant le terme de la transition.
Dominique Saïd Panguinji, porte-parole du gouvernement en République centrafricaine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Commission européenne a annoncé dans la nuit avoir conclu un plan d'action commun avec la Turquie pour endiguer les flux migratoires à l'issue d'un sommet des chefs d'État à Bruxelles. En échange de l'accueil, de l'intégration socio-professionnelle des migrants et d'une surveillance accrue des réfugiés, Ankara recevra une aide financière qui reste à fixer et se verra faciliter l'octroi de visas aux ressortissants turcs voyageant dans l'Union européenne. L'Agence européenne de surveillance des frontières, Frontex, verrait quant à elle son rôle renforcé et autonomisé. Les 28 ont également débattu de la création d'un corps de garde-frontières européen pour renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne. Une décision qui coûterait bien moins cher que le rétablissement des frontières nationales, a estimé le président français François Hollande.
Les groupes palestiniens ont tous appelé à un vendredi de la révolution. Des manifestations étant prévues en Cisjordanie et dans la bande de Gaza après la grande prière aujourd'hui. Idrissa Seydoudia.
La Cisjordanie et Jérusalem-Est sont secouées depuis le 1er octobre par des heurts entre jeunes lanceurs de pierres et soldats israéliens, des agressions entre Palestiniens et colons et des attentats principalement à l'arme blanche qui font redouter une nouvelle intifada. En tout cas, les autorités israéliennes et palestiniennes semblent à ce jour incapables de calmer les esprits parmi une jeunesse exaspérée par l'occupation et la colonisation israélienne, encouragée par les réseaux sociaux et aiguillonnés par les incantations religieuses. Les violences ont fait 32 morts, dont plusieurs auteurs d'attentats, et des dizaines de blessés côté palestinien, ainsi que 7 morts et des dizaines de blessés côté israélien. Les troubles ont semblé marquer une pause jeudi pour la première fois depuis plusieurs jours. À noter que les forces israéliennes étaient déployées massivement à Jérusalem. Pour le gouvernement israélien, la violence provient d'un refus de l'existence même d'Israël et des incitations à la haine proférées, selon lui, par les dirigeants palestiniens. Et le premier ministre Benjamin Netanyahou s'est dit de nouveau prêt à rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Washington a annoncé pour sa part que le secrétaire d'État John Kerry se rendrait bientôt dans la région.
Les troupes américaines poursuivront leur retrait d'Afghanistan à un rythme moins soutenu que prévu, a annoncé le président Barack Obama jeudi à la Maison-Blanche. Les précisions de Félix Yepassi Zembrou.
Le chef de l'exécutif américain s'était donné l'année dernière jusqu'à la fin 2016 pour retirer l'ensemble des troupes américaines encore présentes en Afghanistan, à l'exception d'un millier de soldats qui seraient basés à l'ambassade américaine à Kaboul. Mais voilà, les réalités sur le terrain en ont décidé autrement. Barack Obama a fait savoir jeudi qu'il maintiendra durant une bonne partie de 2016 les 9800 soldats présentement en Afghanistan et se propose de ramener ce contingent à 5500 à son départ de la Maison-Blanche en janvier 2017. Pas question de soutenir une guerre interminable ou de s'engager dans des conflits sans fin, a tenu à souligner le président des États-Unis. Compte tenu des enjeux en Afghanistan et l'opportunité d'y avoir un allié stable et engagé qui pourrait travailler avec nous à prévenir l'émergence de futures menaces et le fait que nous avons une coalition internationale, je suis fermement convaincu que nous devons consentir cet effort supplémentaire. Les soldats américains se limiteront à l'entraînement des troupes afghanes et à la conduite d'opérations antiterroristes, a fait savoir le chef de l'exécutif américain.
Sachez enfin que le président Barack Obama a accueilli chaleureusement hier le Buena Vista Social Club à la Maison-Blanche. C'est le premier groupe vivant à Cuba.
À Cuba, le premier groupe vivant à Cuba à se produire à la Maison-Blanche depuis plus d'un demi-siècle. Le groupe a chanté 4 chansons, dont la légendaire Chan Chan. Et le président Obama a salué la présence de José Cabanas, nouvel ambassadeur de Cuba aux États-Unis. Place à la Minute Éco, présentée aujourd'hui par Michel Joseph.
À Kinshasa, la société canadienne Ivanhoe Mines a indiqué jeudi, après un contentieux avec les autorités congolaises, que son gisement de cuivre géant de Kamoa, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, devrait commencer à produire en 2018. Ce gisement est présenté comme l'une des plus belles découvertes de l'industrie cuprifère depuis des années. Les entreprises minières souffrent de la baisse des cours des matières premières, à l'image du groupe suisse Glencore, qui a annoncé en septembre la suspension de la production pour une durée prévisible de 18 mois dans l'une des plus grandes mines de cuivre de RDC. Mais Louis Voitoum, directeur général d'Ivanhoe RDC, entrevoit une conjoncture favorable pour le lancement de Kamoa. Selon lui, même si la Chine est en train de s'essouffler aujourd'hui ou de ralentir, les autres pays continuent aussi à demander du cuivre. Au Burkina Faso, le premier salon d'affaires et de partage des banques et des PME de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se tiendra du 21 au 24 octobre à Ouagadougou, a appris l'agence APA auprès des organisateurs. Le dit salon, qui devrait initialement se tenir en septembre dernier, avait été reporté en raison de l'instabilité politique née après le coup d'État manqué. Autour du thème « La PME, moteur de la croissance de l'UMOA », le salon se veut une manifestation à vocation sous-régionale qui offre un cadre de partage d'expériences aux petites et moyennes entreprises et industries. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le nouveau cadre de passation de marché de la banque en révisant entièrement deux documents clés, les règles et procédures pour l'acquisition des biens et travaux et les règles et procédures pour l'utilisation des consultants. Ce nouveau cadre devrait avoir un impact considérable, a déclaré Vinay Sharma, directeur des acquisitions et des services fiduciaires de la banque, ajoutant qu'il devrait permettre d'achever les projets avec 8 mois d'avance, ce qui générera plus de 200 millions de dollars de bénéfices économiques par an.
Le Monde aujourd'hui et la page sport maintenant avec Timothée Donangmaï. Bonjour Tim.
Bonjour Anastasie.
Alors coup d'envoi demain au Chili de la Coupe du Monde des moins de 17 ans.
L'Afrique suivra deux matchs demain, Nigeria-États-Unis dans le groupe A et Royaume-Uni-Guinée dans le groupe B. Dimanche, ce sera au tour du Mali de défendre les couleurs africaines face à la Belgique dans le groupe D, pendant que l'Afrique du Sud en découdra avec le Costa Rica lundi dans le groupe E.
À Zurich, Issa Hayatou a pris jeudi ses fonctions de président par intérim de la FIFA.
Le Camerounais de 69 ans, patron de la Confédération africaine de football et jusque-là vice-président de la Fédération internationale, a été propulsé à ce poste par la suspension pour 90 jours du président démissionnaire de la FIFA, Sepp Blatter. Nous restons concentrés sur le processus de réforme nécessaire, l'élection à la présidence, et à soutenir les diverses enquêtes en cours. Restaurer la confiance du public est un objectif crucial, a expliqué M. Hayatou selon des propos transmis par la FIFA.
Également jeudi, réunion d'urgence de l'UEFA sur le sort de son président Michel Platini, suspendu pour 90 jours par la FIFA pour avoir reçu un paiement de 1,8 million d'euros de Sepp Blatter.
La Fédération européenne a renouvelé à l'unanimité son soutien à Platini. Le secrétaire général de l'UEFA, Gianni Infantino, a dit que ce dernier a droit à un procès équitable pour avoir l'opportunité de se dédouaner. La suspension de Platini fait planer un nuage sur sa candidature à la présidence de la FIFA.
Côté lutte contre la corruption, la justice suisse a autorisé jeudi l'extradition vers les États-Unis du Nicaraguayen Julio Rocha.
Rocha fait partie des 7 hauts responsables de la FIFA interpellés fin mai à Zurich à la demande de la justice américaine. Ancien président de la Fédération nicaraguayenne de football, il est soupçonné d'avoir demandé et reçu des pots de vin d'une valeur de 150 000 dollars d'une société américaine pour l'attribution des droits de marketing des matchs du Nicaragua pour les qualifications du Mondial 2018.
Allez, quelques résultats des Masters de tennis de Shanghai pour terminer.
Un match du troisième tour jeudi, Novak Djokovic a battu Feliciano Lopez 6-2, 6-3. Victoire par 2-7-1 d'Andy Murray contre John Isner 6-7, 6-4 et 6-4. Thomas Berdych a sorti Gilles Simon en 2-7, 6-3 et 6-3. Rafael Nadal avance après avoir battu Milos Raonic 6-3 et 7-6. Victoire de Stan Wawrinka face à Marin Cilic 7-5, 6-7, 6-4. Kevin Anderson a défait Kei Nishikori 7-6 et 7-6. Et enfin, Joe Wilfried Tsonga a éliminé Albert Ramos en 3-7, 6-7, 7-5 et 6-4.
Merci beaucoup, Timothée Donangmaï.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Anastasie Tudiech avec vous. Tout de suite, nos dossiers du jour. À Brazzaville, l'heure est à la campagne électorale en vue du référendum constitutionnel le 25 octobre prochain. Les exemplaires du projet de constitution ont commencé à circuler dans la capitale. À Brazzaville, reportage de Ngwe Langoussou.
Dans l'opinion, les avis restent partagés sur l'avènement d'une nouvelle constitution. Si les uns pensent qu'il faut aller vers une nouvelle république, d'autres estiment qu'il ne faut pas du tout changer la constitution.
Le référendum, pour bien voir, ce n'est pas bon pour nous parce que nous sommes la population. C'est nous qui avons le droit de dire non à la constitution, à la référendum. Le président Sassou, il a beaucoup commandé, il a beaucoup médité. Aujourd'hui, nous parlons. Nous, on était des petits. Moi, j'étais en CE2. Aujourd'hui, j'ai 39 ans. Mais il est toujours au pouvoir. Sur la démocratie, nous, on veut qu'il quitte.
Il a mis une concession en place, mais il est en train de violer ça. On doit suivre le règle. Le frénon, non, non. Il n'y a pas de vote.
C'est en milieu de cette semaine que la copie de la nouvelle constitution a commencé à circuler à Brazzaville. 246 articles consacrant la séparation des pouvoirs avec l'institution d'un premier ministre. Un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois pour le président de la République qui ne sera plus gêné par la limitation d'âge. Mais pour Trésor Dila Kende, directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, la nouvelle constitution est un recul pour la démocratie congolaise.
Des dispositions, par exemple l'article 10, qui dit que si un citoyen congolais ne perd pas la nationalité, il ne peut pas être extradé vers une puissance étrangère, il ne peut pas être extradé vers une juridiction internationale. L'actuelle constitution dit que l'État a le devoir de protéger tout citoyen congolais qui est réclamé par une juridiction internationale. Alors là, ça nous inquiète et c'est vraiment un recul parce qu'on ouvre là un grand boulevard à des individus de commettre les graves violations des droits humains parce qu'ils ne seront pas inquiété parce que l'État a le devoir de le protéger, de ne pas l'extrader. La constitution du 20 janvier 2002, en vigueur actuellement, consacre le principe du droit à la vie. Il dit que la personne humaine est sacrée et aucune circonstance ne peut justifier qu'on ôte la vie à un individu. Donc le fait de dire noir sur blanc que la peine de mort est abolie, ça ne justifie pas le changement de la constitution parce que la constitution en vigueur est pour l'abolition de la peine de mort.
La campagne du oui pour une nouvelle constitution le 25 octobre prochain se poursuit dans le pays, se heurtant parfois aux manifestations de ceux qui ne veulent pas du tout d'un référendum constitutionnel. Ngwe Langoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Le ministre tchadien de la Sécurité publique et de l'Immigration s'est exprimé hier jeudi à la Direction générale de la Police nationale. Une communication axée sur 2 points, à savoir les arrestations de femmes en burqa, principalement portées par les adeptes de Boko Haram pour cacher leur visage, et la marche pacifique des organisations de personnes handicapées, violemment réprimée hier matin à N'Djamena par la Police nationale. La correspondance d'André Kodmajingar.
La loi portant répression des actes de terrorisme en République du Tchad adoptée par l'Assemblée nationale le 30 juillet 2015 a fait déjà les premières victimes. Plus de 60 femmes sont arrêtées ce mercredi 14 octobre dans la ville de N'Djamena et présentées à la presse ce jeudi parce qu'elles ont porté la burqa. Ces femmes doivent payer une amende de 100 000 francs CFA chacune au profit du trésor public. Pour le ministre de la Sécurité publique, le gouvernement va passer à une vitesse supérieure. Ahmad Mohamed Bachir.
Le burqa qui consiste à fermer tout le visage est interdit pour la journée d'hier simplement. Ce sont 2 femmes habillées en burqa. Et pourtant, ces femmes-là ne sont pas tombées du ciel. Même les responsables qui travaillent avec nous, ils ont, si ce n'est pas leur épouse, c'est leur proche. Et curieusement, ils se permettent de venir demander une intervention. La prochaine fois, elles et leurs proches, surtout si c'est un responsable, il nous trouvera sur son chemin. Parce que lui-même, il devient hors la loi. On passera à une vitesse supérieure. La loi antiterroriste, elle est là. Tous ceux qui ne respectent pas cette mesure seront considérés désormais comme des terroristes ou des complices des terroristes.
Les organisations des personnes handicapées et déficiences auditives qui voulaient organiser une marche pacifique ce jeudi pour exiger le décret d'application de la loi portant protection des personnes handicapées et la ratification de la Convention des Nations Unies en faveur des personnes handicapées ont appris à leurs dépens. La manifestation a été sévèrement réprimée par la police nationale parce qu'elle n'a pas été autorisée. Pour le ministre de la Sécurité publique, ces personnes handicapées sont manipulées par les hommes politiques.
Ces handicapés m'ont écrit demandant une autorisation de manifester dans la rue. J'ai dit SGDGPN non, non, non. Informer les intéressés. Ces handicapés font des slogans. 8 ans d'attente, trop c'est trop. Et pour endormir les gens de vous, ils parlent d'un décret d'application de quoi. C'est des compatriotes instrumentalisés, manipulés par des politicards à petits pieds. Ces politicards à petits pieds, pourquoi eux, ils ne sortent pas dans la rue?
Le président de l'association d'entraide des personnes handicapées physiques, Baila Samgerard, s'est dit surpris que la police nationale réprime une manifestation pacifique dans un état de droit.
Nous sommes dans un pays de démocratie. Et la démocratie donne le droit à ses citoyens d'organiser des marches quand ils ne sont pas du tout contents. Et nous sommes vraiment surpris par le comportement de la police. Nous n'allons pas baisser les mains. Donc nous leur donnons rendez-vous 2 semaines plus tard pour qu'ils puissent encore revenir pour nous massacrer.
André Koduma Djingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
Hier à Ouagadougou, au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes se sont réunies place des martyrs de Tampouy pour commémorer le 28e anniversaire de la mort de Thomas Sankara. Sankara et ses collaborateurs, en pleine séance de travail, ont été pris d'assaut par un commando armé, bilan 13 morts. Mais une personne a pu sortir indemne de cet assaut, Alouna Traoré, à l'époque proche collaborateur de Thomas Sankara. Dans cet entretien accordé à notre envoyé spécial à Ouagadougou, il revient sur cette après-midi miraculeuse du 15 octobre 1987.
Pour la petite histoire, moi je suis allé en mission le 14. Et le 15, à notre rencontre de 16h, je devais faire le compte rendu de ma mission. À peine j'ai eu le temps de commencer, on a entendu les crépitements de balles. Nous étions en réunion et on a été surpris par nos assaillants et nos fossoyeurs, ceux qui ont tué la révolution en vérité, en vérité.
Et donc vous étiez en réunion, il y a eu des coups de feu et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Le leader de la révolution a été abattu à bout portant. Il est sorti, il a été le premier à sortir de la salle. Il a été criblé de balles et les autres s'en ont suivi. Et moi, j'ai été pratiquement le dernier à sortir.
Est-ce que Sankara a parlé ?
Oui. Avant de sortir de la salle, il nous a dit « c'est de lui qu'on a besoin ». Et il a tiré sa chemise vers le bas et il est sorti les mains en l'air, affronter les assaillants. Il n'a tiré sur personne.
Et comment se fait-il que vous avez pu vous en sortir ?
Généralement, à cette question-là, je ne sais pas, c'est les voies du Seigneur. Il n'y a que Dieu qui puisse expliquer comment son serviteur, humble serviteur, a pu se sortir d'affaire.
Et vous étiez combien au total ?
Dans la salle de réunion, nous étions 7. J'ai perdu donc à cette rencontre-là 6 de mes camarades, y compris le camarade président. Donc le reste, la liste macabre, là, c'est le garde-corps du président qui était dehors. Sinon, dans la salle, nous étions 7.
Et qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce que vous avez pu vous cacher, vous enfuir ? Qu'est-ce qui explique cela ?
Non, j'étais le dernier sorti de la salle. Je pense que nos assaillants ont dit, bon, le travail est fini. Bon, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, j'avais des forces occultes ou bien quoi, de la magie, non, non, non. Moi, je ne m'explique pas et je ne veux pas l'expliquer. Il n'y a que le Seigneur Allah qui peut expliquer. Seulement, je sais ce que je peux dire. Je n'ai pas compris la brutalité, la férocité. Qu'est-ce que le PF, le Thomas Sankara, a pu bien faire ?
Alouna Traoré, collaborateur de Thomas Sankara, au micro de Bagassi Koura. La douane malienne a saisi en fin de semaine de la cocaïne sous forme de capsules au poste de contrôle de Kourou-Malé, à la frontière guinéenne. Le trafiquant de nationalité ghanéenne a été arrêté. Kadiatou Traoré a joint au téléphone Adaman Sidibé, directeur adjoint de la douane de Koulikoro.
le bureau des douanes de Gré-Malé, en date du 9 octobre à 22h, a saisi 41 boulettes de cocaïne faisant un poids total de 2 kilos. Sur un individu de nationalité ghanéenne.
Pouvez-vous nous donner en détail l'identité du trafiquant, le plus ample détail sur son identité?
Le délinquant s'appelle Anissa Francis. Lorsqu'on l'a soumis à un interrogatoire, il nous a révélé que ces 41 boulettes ont été ingérées par lui-même à Sao Paulo, au Brésil, via la République de Guinée. Donc, il devait remettre ces 41 boules à un monsieur qui devait venir à sa rencontre à l'aéroport de Conakry. À son arrivée, ce dernier n'était pas au rendez-vous, donc il a été obligé de rappeler son corps au Brésil, il a demandé de continuer avec les 41 boulettes sur le Ghana en passant par le Mali.
Pourquoi le Mali devient subitement la plaque tournante des trafiquants de drogue?
Effectivement, depuis un certain temps, on nous apprend que le Mali est un pays de transit. C'est dû à la situation touriste des frontières maliennes. Vous savez, le Mali est un pays très vaste. La situation ces derniers temps sécuritaire du Mali fait aussi que le Mali devient un lit favorable pour les narcotrafiquants. Mais les services de sécurité quand même sont en train de faire le drogue, particulièrement la douane, qui n'est pas à sa première saisie depuis le début de l'année.
Nous avons constaté aussi que le poste de Gré-Malé, beaucoup de biens et services frauduleux passent par là. Vous, en tant que service de contrôle des biens et des services à l'exportation et puis à l'importation sur le territoire du Mali, qu'est-ce que vous prévoyez pour lutter contre ce fléau de trafic sur le Mali?
Effectivement, ce versant pose énormément de problèmes aujourd'hui. Mais la direction générale des douanes a pris conscience de la chose. C'est pourquoi le bureau de Gré-Malé a été doté en matériel roulant il y a de cela 4 mois. Les agents de ce bureau viennent fraîchement d'une formation qui apporte sur les nouvelles techniques de contrôle. Donc nous misons sur la formation et l'échange d'informations, de renseignements sur ce versant. Des agents ont été affectés. La direction a mis en place une politique de formation et tout récemment, les agents de Gré-Malé ont été formés aux nouvelles techniques de brigade. Donc cette saisie prouve que les agents ont tiré le meilleur enseignement de ces formations.
C'était Adaman Sidibé, directeur adjoint régional de la douane de Koulikoro. Il était au micro de Kadiatou Traoré.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Les migrants africains secourus au large des côtes libyennes sont acheminés vers la Sicile. Et une fois débarqués, un nouveau long périple les attend. Reportage de l'envoyé spécial de VOA Afrique en Europe, Nicolas Pineau.
Le regard un peu perdu des enfants érythréens et leurs parents descendent lentement du navire Enterprise. Ce bateau de la marine britannique les a secourus ainsi que 650 autres migrants en Méditerranée. Comme eux, des milliers de migrants débarquent en Sicile depuis plusieurs mois. À leur arrivée, ils sont temporairement hébergés dans des centres fermés de l'île. C'est dans ces premiers jours que va se déterminer la suite de leur aventure européenne. S'ils acceptent de faire enregistrer leurs empreintes digitales en Italie, ils entrent dans le règlement Dublin. Ce texte, adopté en 2013, prévoit qu'un réfugié doit déposer une demande d'asile dans le premier pays dans lequel il est arrivé et y rester jusqu'à son examen. Beaucoup ne le savent pas encore, mais cette décision, une fois arrivée en France, en Allemagne ou en Suède, peut les contraindre à devoir retourner en Italie s'ils se font arrêter. Après la Sicile, les migrants sont envoyés vers Rome ou Milan. À leur descente de bus, c'est chacun pour soi. Officieusement, les autorités italiennes se débarrassent de ces personnes qui n'ont pas pour ambition de demander l'asile en Italie. Les transporter dans le nord du pays, c'est la garantie de les voir quitter plus tôt l'Italie. Alassane Saïdi connaît bien le problème. Cet ancien journaliste sénégalais est aujourd'hui médiateur culturel. Il intervient régulièrement auprès des migrants sur Milan.
Pas seulement à Milan, dans beaucoup d'autres régions, même en Italie. Ils sont mis dans des bus, on les amène jusqu'à destination. Il n'y a pas d'accueil, il n'y a personne qui est là pour quand même leur dire voilà ce qu'on doit faire de vous. Il n'y a rien, on les débarque et les bus retournent. Donc ils sont laissés à leur propre sort. Mais c'est ce qui intervient généralement ici, ce sont les associations, c'est la Caritas, l'Église quand même qui franchement a beaucoup contribué quand même à la prise en charge de ces gens.
Derrière la gare centrale de Milan, un centre de jour accueille les migrants avant qu'ils ne soient acheminés vers d'autres structures pour passer la nuit. Fabio Passiani de la fondation Progetto Arca qui gère ce centre.
C'est un transit ici. Les migrants restent en moyenne 4 à 5 jours, puis ils s'en vont. Il y en a même qui partent 24 heures après leur arrivée.
Plus de 137 000 personnes sont arrivées en Italie par bateau depuis début 2015. Nicolas Pineau, Milan, VOA Afrique.
C'était Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique en direct de Washington. Merci pour votre attention. Mise en onde et suivi de l'actualité, Anne Albertson. Un grand, grand merci à toute la rédaction. Très belle journée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.